Les podcasts du Collège de France, Histoire.
J'ai donc fini la dernière fois. J'en ai fini la dernière fois avec cette longue digression, plus longue que je ne le prévoyais, comme d'habitude, consacrée à Xu Zhetuo et à son autobiographie, Le Xuepu. Enfin, digression, ce n'en était pas vraiment une, sinon qu'elle nous faisait revenir un peu en arrière dans le temps par rapport au point que j'envisage d'aborder cette année et que je vais commencer d'aborder aujourd'hui, à savoir, je vous le rappelle, premièrement, les catastrophes naturelles qui ont ravagé les toutes dernières années des Ming, et deuxièmement, les réactions populaires à l'invasion mandchoue qui leur fait immédiatement suite, et tout cela se passe en effet dans les années 1640, et ces deux sujets donc considérés dans une région limitée de l'Empire, mais combien importante, le Tiangnan, donc, dont nous avons déjà beaucoup parlé, surtout l'année dernière. Est toujours considéré, bien sûr, à travers les documents à la première personne, mais cette fois en s'intéressant moins à l'individu qui parle ou qui témoigne qu'à ce qu'il a à nous apprendre depuis son poste d'observation particulier sur les événements relevant de ce que j'appelle un peu pompeusement la grande histoire. Par rapport à cela, donc, Xu Zhetuo, c'était encore, en tout cas en grande partie, c'était encore l'autobiographie comme l'autobiographie comme objet d'analyse en soi, aussi bien le texte lui-même que l'individu dont parle ce texte, c'est-à-dire, en l'occurrence, bien sûr, son auteur. Il va de soi que c'est une approche que j'aurai encore l'occasion d'adopter, car je n'ai eu le temps d'évoquer pour le moment qu'une partie, finalement, assez limitée, des écrits chinois à la première personne qui m'intéressent, c'est-à-dire ceux qui réussissent d'une manière ou d'une autre à se libérer des contraintes de l'écriture biographique en Chine telles que les ont fixées la tradition, les a fixées la tradition. Et nous verrons que si la période de transition entre les Ming et les Qing est, comme je l'ai déjà plusieurs fois expliqué, exceptionnelle de ce point de vue-là, il ne manque pas malgré tout d'autres exemples dans la période qui lui fait suite, plus tard dans le XVIIe siècle et puis surtout au XIXe siècle. Cela étant, je pense avoir suffisamment illustré que Xu Zhetuo est beaucoup plus qu'un lettré de la fin des Ming qui ferait confidence de manière plus ou moins exhibitionniste ou désinhibée, comme j'ai dit, de ses pensées intimes ou de ses inquiétudes. C'est aussi un témoin, et parfois un témoin très révélateur, sur le monde et sur la société dans lesquelles il vit, sur les régions qu'il traverse, sur les fonctions qu'il occupe, etc. etc. Je n'y reviens pas, j'ai exposé tout ça assez en détail ces trois dernières semaines. Xu Zhetuo, dont l'autobiographie commence en 1610, est mort en 1631, si bien qu'il est contemporain des premières alertes graves venues de Mandchourie. Pour ne citer que les plus importantes, je vous rappelle la prise de Fushun, qui était une place forte stratégique qui contrôlait tout le bassin du Liaodong, dès 1618, donc pendant la première période où Xu Zhetuo est fonctionnaire à Pékin. Ensuite, le désastre de l'expédition envoyée dans le nord-est pour venger cette défaite et tenter de reprendre l'initiative, et ça, Xu Zhetuo en parle pendant qu'il est en congé pour deuil. Et enfin, au tournant de l'année 1630, la panique créée par un raid audacieux qui amène les Mandchous quasiment en vue de Pékin. Enfin, en vue de Pékin, c'est une façon de parler, c'était quand même à plus de 100 km. J'ai déjà dit un mot de cet épisode, dont Xu Zhetuo, qui se trouvait à ce moment-là au Fujian, parle dans son autobiographie. En revanche, comme je l'avais souligné aussi, Xu Zhetuo est mort trop tôt pour pouvoir être témoin des progrès foudroyants des rébellions de l'intérieur qui allaient finir en fait par emporter les Ming. Et il n'a pas non plus pu connaître les terribles famines des dernières années de la dynastie, à partir de 1641 surtout. Il est occasionnellement question de sécheresse ou d'inondation dans le texte du Xuepu, et aussi des chertés qui en résultent, et en fait surtout des chertés qui en résultent, mais ce dont parle Xu Zhetuo, ce sont des crises de subsistance locales, limitées, des accidents de parcours qui faisaient partie de la routine, comme dans toutes les économies d'Ancien Régime d'ailleurs, et non pas de ces catastrophes climatiques et humanitaires dont il va être question à partir d'aujourd'hui. Je viens de parler de routine et de catastrophe, mais il n'y a rien en fait de plus délicat à classer ou à évaluer que ce genre d'événement, surtout si l'on cherche à faire des comparaisons dans la longue durée. J'avais déjà un peu parlé de ces problèmes dans ma série de cours consacrée à ce qu'on pourrait peut-être appeler l'enfantement difficile de la modernisation ou de la modernité au Shaanxi au début du XXe siècle. Donc cette série que j'avais donnée sous le titre général « Ingénieur, philanthrope et seigneur de la guerre », dont, soit dit en passant, vous pouvez lire le texte intégral avec les illustrations sur mon site, sur le site du Collège de France. C'est la seule série de cours que j'ai entièrement arrangée, éditée et donc mise en ligne. J'avais en particulier parlé de la terrible famine qui avait ravagé le Shaanxi et d'abord la région du Guangdong, où se trouve la grande ville de Xi'an, sur laquelle était centrée mon étude, de 1928 à 1930. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de ces descriptions épouvantables et de ces mortalités massives que j'avais évoquées en citant les sources de l'époque, mais aussi du fait qu'on discutait de façon très vive dans certains milieux sur les causes exactes de cet événement, dont tout le monde s'accordait à reconnaître la gravité, encore qu'avec certaines nuances. En gros, la question était de décider s'il s'agissait de causes entièrement ou essentiellement naturelles, autrement dit d'un épisode de sécheresse à répétition, s'étendant sur près de 3 années consécutives, frappant une zone très vaste, bien au-delà de la seule province du Shaanxi, et qu'on ne pouvait comparer qu'à la méga-famine qui avait dévasté la Chine du Nord exactement un demi-siècle plus tôt, merci beaucoup, pendant les années 1876 à 79, ce qu'on appelle souvent la famine de Guangxu, du nom du règne au début duquel cet événement est survenu. Et c'était d'ailleurs la comparaison que tendait, donc entre la famine de 1928-30 et celle de Guangxu, que tendaient à faire les intéressés eux-mêmes, si je puis dire, c'est-à-dire les populations qui subissaient l'événement sur place. Ou alors, on se demandait s'il ne s'agissait pas plutôt d'une sécheresse très grave, à coup sûr, mais dont les effets auraient pu être contrôlés de façon relativement efficace, n'eussent été un certain nombre de facteurs négatifs qui n'avaient rien de naturel, tels que l'impuissance du gouvernement, la guerre civile et les réquisitions et les exactions systématiques des armées en présence, le banditisme et l'anarchie qui régnaient partout, une agriculture ruinée par la culture de l'opium, etc., etc. Et ces débats, je vous le rappelle, étaient particulièrement vifs dans les milieux de la philanthropie internationale, car en principe, celle-ci ne considérait pouvoir légitimement intervenir en Chine que contre des famines ayant des causes naturelles et non pas politiques. On ne rencontre pas ce genre de débat au Tiangnan donc, dont je vous ai fait distribuer une carte, je crois assez bien faite, qui servira pour toute la fin des cours, puisque je parlerai de plusieurs endroits et comme ça, je n'aurai pas besoin de les localiser maladroitement au tableau. Donc, on ne rencontre pas ce genre de débat au Tiangnan dans les années 1640, puisque c'est de cette région et de cette époque que je vais parler. Ou du moins, on ne le rencontre pas dans les mêmes termes, ne serait-ce, c'est même pas la peine de le préciser, ne serait-ce que parce que la question d'une quelconque aide internationale ne se posait évidemment pas à cette époque. Elle ne commencera en fait à se poser qu'au moment justement de la famine de Guangxu que je viens d'évoquer. Et la philanthropie locale, quant à elle, qui a joué un rôle important et un rôle dont sur lequel je reviendrai plus tard, la philanthropie locale ne se pose pas vraiment la question de savoir si la misère des populations qu'elle essaye de secourir est d'origine naturelle ou politique. Mais cela ne veut pas dire que l'on n'est pas conscient de l'existence et de l'importance des facteurs humains dans ce genre d'événement. Par exemple, on sait très bien que l'impact des inondations et des sécheresses qui semblent se multiplier à la fin des Ming serait certainement moindre si les infrastructures d'irrigation et de protection hydraulique, donc à la fois pour irriguer, pour protéger et pour drainer aussi, ce qui est très important au Tiangnan, si ces infrastructures étaient correctement entretenues. Et on sait que si elles ne le sont pas, c'est à cause de l'efficacité déclinante de l'administration, c'est à cause aussi de la désorganisation des structures qui administraient les communautés locales, à cause encore des tensions sociales qui font que les grands propriétaires et les tenanciers qui cultivent leurs terres se rejettent mutuellement la responsabilité de remonter les digues, de draguer les cours d'eau, etc., enfin d'entretenir l'ensemble des dispositifs. Et à cela s'ajoute, et surtout au Tiangnan, à cela s'ajoute l'évasion fiscale massive dont j'avais analysé certaines causes il y a un an. De la même façon, il est plus que probable que parmi les facteurs qui ont contribué à aggraver les crises de subsistance, autrement dit l'impact des calamités naturelles sur les populations, pendant les dernières décennies des Ming, il faille prendre en compte une diminution drastique d'un des principaux moyens d'intervention du gouvernement, à savoir les réserves publiques de grains, celles qui étaient destinées à la population, au plus tard après le règne de l'empereur Wanli, donc à partir des années 1620, au plus tard, mais peut-être plus tôt. Ceci alors qu'au début de ce règne, l'État semble au contraire avoir consenti de sérieux efforts pour restocker les greniers locaux, et ceci dans le cadre de la remise en ordre générale des finances de l'Empire, la dernière de l'histoire des Ming, en fait, pendant les 10 premières années de Wanli, c'est-à-dire les années 1570, sous la houlette du premier ministre, un personnage très important, Zhang Tuzheng. Enfin, premier ministre, il était en fait, il n'y avait pas de premier ministre en principe, mais il était chef du grand secrétariat. Donc Zhang Tuzheng a été en fait à la fois le chef du grand secrétariat, le mentor et le maître de l'empereur Wanli dans sa jeunesse. Et dès que Zhang Tuzheng est mort, je ne sais plus exactement, de 1580 à peu près, Wanli a commencé à, disons, être beaucoup moins sérieux. Zhang Tuzheng. C'est d'ailleurs de cette époque aussi que date la compilation d'une grande comptabilité de l'Empire à laquelle j'ai fait allusion, le Wanli Kwai Ti Lu, également une initiative de Zhang Tuzheng, et nous avions vu que le Wanli Kwai Ti Lu était une des lectures de Xu Zhetiu. Vous vous souvenez peut-être, à propos de la diminution des réserves de grains, que Xu Zhetiu encore en faisait au passage la remarque, et je l'avais mentionné, je crois, il y a 15 jours. C'était en 1626, pendant son exil forcé dans sa préfecture natale à Zhuzhou, dans le sud du Zhejiang. Il était allé voir un jour, raconte-t-il, le grenier de la préfecture, qui s'appelait le Guangyinsang, enfin le grenier vaste et riche, peu importe les caractères, où on lui avait expliqué qu'il y avait en réserve environ 9000 che, c'est-à-dire à peu près autant d'hectolitres. C'est le che qu'on traduit souvent par en mesure de poids, est en fait, dans ce genre d'emploi, une mesure de capacité, ça fait à peu près un hectolitre. 9000 che, donc, répartis entre 18 bâtiments. En soi, ce n'est pas du tout une quantité négligeable. Un rapide calcul vous permet de voir que ça fait à peu près 500 tonnes de grains, mais pour une grande préfecture quand même. Mais d'après Xu Zhetiu, il n'y avait pas moins de 70 000 che en réserve sous le règne précédent. Et en outre, on a depuis cette époque diminué la capacité de stockage du grenier en affectant une partie des bâtiments à d'autres usages. C'est un exemple tout à fait isolé, bien sûr, mais je le cite d'abord parce que c'est Xu Zhetiu, qui est devenu un de mes auteurs favoris, et aussi parce que c'est un témoignage recueilli à la source. Et finalement, il n'y en a pas tellement sur ce genre de sujet à cette époque. Et puis, il se trouve que ce témoignage a également son intérêt en ceci que, s'il révèle incontestablement une diminution importante des réserves, en tout cas à Zhuzhou, depuis l'époque Wanli, il n'invite pas moins à relativiser la notion répandue d'une décadence générale et définitive des stockages publics destiné à secourir les populations depuis le milieu du XVIe siècle au moins. C'est ce qui est affirmé, par exemple, dans un ouvrage sur les greniers publics à l'époque des Qing, que j'ai publié avec mon collègue Bin Wong en 1991, et où il est affirmé, sur la base d'ailleurs de savants japonais, qu'à la fin des Ming, les stockages publics de grains pour les secours auraient, pour ainsi dire, cessé d'exister. Et il n'y aurait plus que quelques réserves entretenues par des notables, et ce sont évidemment les fameux greniers qu'on appelle en jargon sinologique, les greniers d'équité, ou les yitang, ce qui est une institution très importante, qui a une longue histoire, où le mot yi, qu'on traduit par équité, en fait, c'est l'équité, la charité, la justice. Enfin, en tout cas, ce sont des institutions qui sont contrôlées par les notables, et non par le gouvernement. La situation à Zhuzhou, à l'époque Wanli, et même dans les années 1620, tel qu'en parle Xu Zhetiu, tend à contredire cette affirmation qu'il n'y avait plus rien à la fin des Ming. Mieux même, elle tend à contredire la courte note sur les greniers de Zhuzhou à l'époque des Ming que l'on trouve dans la monographie locale de cette préfecture qui a été compilée beaucoup plus tard, à la fin du XIXe siècle, Donc, Chujo Fuju, ça je l'écris juste pour les... C'est donc ces traités à la fois historiques, administratifs et géographiques qui étaient compilés pour toutes les circonscriptions de l'Empire. Donc on trouve cette note dans la monographie de Chujo, selon laquelle, depuis les années 1560, enfin il dit la fin du règne de Tiating, mais enfin c'est à peu près 1560, ce qui restait de grains à Chujo avait été affecté au solde des militaires, si bien que lorsque l'année était mauvaise, il ne restait plus aux habitants d'autre solution que de fuir la région et d'aller mourir dans les fossés, suivant l'expression convenue. Voilà donc bien un exemple, et c'est un exemple, disons, d'historiographie que je trouve important ou intéressant, un exemple où la source historique standard, la monographie locale, celle vers laquelle on se tourne toujours en premier lieu sur ce genre de choses, semble donner une image très inexacte de la réalité. Du moins, si l'on accepte le témoignage de Sujutio, et il n'y a absolument aucune raison de ne pas l'accepter. C'est donc un exemple tout à fait isolé, mais il invite certainement à nuancer les affirmations habituelles sur la décadence de tout à la fin des Ming. C'est un point que j'ai déjà souligné plus d'une fois. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de décadence, mais ce n'était pas une décadence totale comme on le dit en général. Nous aurons ainsi l'occasion de voir, dans la suite de mon exposé, que les autorités locales ne se contentaient pas toujours ni partout de se croiser les bras lorsque leurs administrés étaient victimes des calamités ou de la famine, puisque aussi bien, il ne restait plus rien à leur distribuer. Il est vrai que dans un certain nombre de localités, ce sont les associations charitables qui semblent avoir joué un rôle moteur pour essayer de combattre les catastrophes pendant les dernières années de la dynastie. Mais ces associations charitables qui ont commencé à s'organiser au début du XVIIe siècle n'en travaillaient pas moins en collaboration étroite avec les fonctionnaires locaux et, comme le montrent certains témoignages dont je reparlerai, les fonctionnaires locaux restaient en fait une présence indispensable. C'est un peu eux qui arrivaient encore à tout faire tenir ensemble alors que c'était la calamité, la désorganisation totale de la société, etc. Cela étant, il n'en reste pas moins vrai, comme nous allons le voir, que ces catastrophes de la fin des Ming ont eu un impact réellement dévastateur et qu'à partir d'un certain moment, on ne pouvait plus faire grand-chose. Ou alors, pour qu'on puisse faire quelque chose, il aurait fallu une machine gouvernementale puissante, très organisée et disposant de gros moyens, comme ça a été le cas en plusieurs occurrences au XVIIIe siècle, mais comme ça ne l'était certainement pas vers 1640. Comme je l'ai annoncé, mon intention à partir de là n'est pas de proposer un exposé magistral sur les désastres naturels et les famines au Tiangnan pendant le dernier demi-siècle des Ming, ni même pendant les toutes dernières années du régime qui sont donc celles qui nous concernent en ce moment. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir ce que nous en apprennent ces écrits à la première personne qui sont après tout mon sujet. Autrement dit, mon but est d'examiner ces événements à travers des témoignages non médiatisés par le regard et surtout par la rhétorique et par la langue de l'historien, lesquels se confondent en grande partie avec celles de l'État. J'avais un peu évoqué cette problématique il y a 4 ans, encore une fois, lorsque j'avais parlé de la famine de 1928 à 1930 au Shaanxi. J'avais alors insisté, en citant même quelques exemples, sur le côté justement profondément rhétorique des descriptions données dans les rapports d'enquête officiels et aussi bien dans les reportages publiés dans la presse des grandes villes de la côte, lesquels reportages d'ailleurs s'inspiraient en grande partie des rapports officiels. Je veux dire, j'avais insisté sur leur façon d'enchaîner les clichés et les formules toutes faites, c'est-à-dire la plupart du temps des formules bien balancées en 4 caractères, la terre est comme brûlée sur une étendue de 1000 lits, ça fait plus que caractère en français, 4 caractères en français, mais en chinois, c'est che di tian li. Pas un seul grain ne pousse, les arbres sont dépouillés de leur écorce parce que les gens la mangent, les cadavres s'entassent dans les fossés, etc. etc. Il y en a tout un répertoire. Et j'avais aussi insisté sur l'accumulation de chiffres spectaculaires pour décrire la proportion des victimes au regard de la population totale, la mortalité de famine, la faillite des récoltes, donc les pourcentages de faillite des récoltes, le nombre de gens qui fuient les zones de famine, etc. etc. Or, ce type de discours n'est pas la conséquence d'une sorte d'incapacité à voir les choses de façon réaliste et nuancée. Il vient plutôt de ce que ces textes, que ce soit les textes, enfin les articles des journalistes ou les rapports des enquêteurs officiels, que ces textes ont une valeur en quelque sorte militante, qu'il s'agit d'émouvoir aussi bien le gouvernement, qui reste la principale instance en position d'intervenir, que le grand public, car c'est au grand public que s'adressent les organisations philanthropiques, très actives à cette époque, comme nous l'avions vu, pour essayer de lever des fonds qui contribueront à secourir les victimes. Et ce qu'il importe de souligner, c'est que ces formulations qui nous frappent par leur côté conventionnel ou formulaïque, avais-je dit, et qui sont largement passées dans le langage courant d'ailleurs, tirent leur efficacité et je dirais qu'elles tirent même leur légitimité de la tradition, et plus précisément de la grande tradition historiographique de l'époque impériale. C'était en effet déjà les formules qu'employaient les dignitaires qui cherchaient à capter l'attention de l'empereur et qu'employait à son tour l'empereur lorsqu'il proclamait dans ses édits la douleur qu'il éprouvait à l'évocation des malheurs du peuple et qu'il annonçait qu'il allait prendre des mesures de secours ou d'exemption fiscale. Lorsqu'on étudie les famines de la fin des Ming, par exemple, dans les sources historiques conventionnelles, c'est-à-dire celles auxquelles on se reporte très naturellement en premier lieu, c'est cela qu'on trouve essentiellement, une sorte de langage codé dont la fonction est de suggérer la gravité de la situation et d'inviter à l'action. Et j'ajoute qu'on se tourne d'autant plus vers l'historiographie conventionnelle, à la fin des Ming ou sous les Ming, qu'on ne dispose pour ainsi dire jamais à cette époque des rapports de travail parfois extrêmement détaillés et très précis, non seulement dans leurs chiffres mais aussi dans leurs descriptions, que rédigeaient les fonctionnaires envoyés sur le terrain. Alors que, en revanche, ces rapports nous ont été conservés dans certains dossiers publiés pour l'exemple à la suite de certaines famines exceptionnellement graves ou alors ont été conservés dans les archives, mais au XVIIIe ou XIXe siècle. Sous les Ming, il n'y a rien de tel. Et c'est donc pour cela que les témoignages à la première personne dont je suis en train de parler sont tellement intéressants, et ils le sont d'autant plus qu'ils n'ont, eux, aucune intention militante ou administrative. Du moins, pas autant au sens de l'administration d'État. Il s'agit simplement, pour leurs auteurs, de rapporter les choses extraordinaires dont ils ont été les témoins ébahis ou épouvantés. Et ces témoignages sur les désastres naturels et les famines pendant la crise terminale des Ming, ces témoignages acquièrent une tonalité spéciale très caractéristique qui s'explique, me semble-t-il, par le fait que leurs auteurs ont le sentiment, justement, de vivre une époque où tout est en train de se défaire, où les événements bizarres ou inquiétants, les événements jamais vus, comme on dit, se multiplient et où l'on se demande avec angoisse comment tout cela va se terminer. Il y a aussi, et c'est bien sûr la forme ultime du récit à la première personne, il y a aussi un petit nombre de journaux rédigés par des lettrés pendant les campagnes de secours qui étaient organisées par les organisations charitables auxquelles ils appartenaient ou même qu'ils dirigeaient. Certains de ces journaux ont une tonalité indiscutablement militante, mais c'est plutôt à usage interne. Et surtout, ces textes étaient par définition des écrits dont la destination était purement personnelle ou à la rigueur qui était accessible à un petit cercle d'amis. Et ce qu'on y trouve d'abord et avant tout, et qui fait que ce sont des documents tout à fait exceptionnels et d'un intérêt vraiment extrême, c'est la description au jour le jour des réalités auxquelles étaient confrontés leurs auteurs, et auxquels ils étaient confrontés en quelque sorte au ras du terrain. Ces journaux, j'en reparlerai plus tard, car ce contenu très spécial que je viens de mentionner en fait un ensemble de sources un peu à part, inséparable justement de l'entreprise philanthropique qui est née de la crise sociale au Tiananmen pendant la première moitié du XVIIe siècle. Et en fait, c'est un ensemble de sources dont il est assez difficile, parce qu'elles sont justement tellement ponctuelles, dont il est assez difficile de dégager une vue un tant soit peu synthétique de ces famines des années 1640 auxquelles nous sommes en train de nous intéresser. Ce dont je voudrais parler d'abord, avant d'aborder ce genre de sources, ce sont des textes dont j'ai d'ailleurs déjà mentionné certains l'année dernière, parfois même assez en détail, et des textes qu'on peut classer, il me semble, sous deux grandes catégories. D'une part, il y a les autobiographies proprement dites, dont le récit est centré par définition sur la personne de l'auteur. Et d'autre part, il y a certaines chroniques locales qui se présentent comme des témoignages, mais dans lesquels l'auteur en tant que personne, c'est-à-dire en tant que personne qui parle d'elle-même, qui dit « je », n'apparaît que de façon très épisodique, même s'il n'est jamais très loin, cet auteur, et même si le récit est manifestement et en fait explicitement un récit de ce qu'il a vu et entendu. Et j'avais souligné l'importance de cette formule Tianwen, qui signifie ce qu'on a, qui se retrouve dans les titres d'ailleurs de beaucoup d'ouvrages, qu'on a vu et entendu, j'ai vu ou j'ai entendu parler des choses dont on parle. Disons que ce que j'appelle les chroniques livrent en général une vision plus large et plus générale des choses que les autobiographies, même si dans certains cas, la différence n'est pas si grande que cela. Mis à part, bien sûr, la présence constante ou quasiment constante de l'auteur dans les autobiographies. La chronique que j'ai choisi de mobiliser en premier est un texte dont je n'ai pas encore eu l'occasion de parler ici, mais que je pratique depuis longtemps et que j'ai toujours trouvé d'une lecture absolument passionnante. Moi et mes étudiants, d'ailleurs, je me souviens de séances où on n'arrivait pas à s'arrêter. Quelques mots de présentation seront, sur cette source seront certainement utiles. Le titre, d'abord, qui est un titre un peu trompeur, comme on va le voir, est le suivant. On peut écrire là. C'est le Tianwen. Tianwen Lu. Ce qui signifie tout simplement... Non, Jun, pardon. C'est Ti, oui, ce Ti-là. Donc, vous reconnaissez ce texte, ce caractère qui désigne les choses qu'on a vu, dont on a entendu parler. Donc, le Ti-Jun, Ti-Wen-Lu, ce qui signifie plus ou moins, enfin même exactement, un compte-rendu des choses entendues et notées, hein, Ti-Wen, pendant les règnes Tianxi et Chongzhen, les deux caractères Qi et Zhen étant une sorte de compression de Tianxi et Chongzhen, c'est-à-dire la période 1621-1644. Je disais que le titre est un peu trompeur, car il s'agit donc d'une chronique des événements survenus dans la grande métropole du Tiangnan, Suzhou, donc que vous devez voir trônant majestueusement au milieu de votre carte, enfin plutôt un peu sur la droite d'ailleurs, Suzhou, et dans ses environs, mais toujours vue de Suzhou. Une chronique qui couvre une période un peu plus longue que ce que suggèrent ces deux noms de règne. Non pas 1620 à 1621 à 1644, mais en fait 1621 à 1653. Autrement, ce qui fait une différence, parce que du coup, l'invasion manchoue et les premières années de la mainmise des Qing sur le Tiangnan sont également incluses dans ce texte. Et en fait, les quatre derniers chapitres sur huit portent sur cette période entre la chute des Ming, 1644, et puis la fin du texte, 1653. La couverture chronologique dans ce texte est d'ailleurs très inégale, car au début surtout, certaines années sont expédiées assez vite, ou même très vite, en quelques lignes, et l'année 1634, par exemple, saute purement et simplement. Alors que d'autres années, au contraire, à commencer par celle qui nous intéresse le plus, pour ce dont je suis en train de parler, d'autres années sont traitées de façon hautement détaillée et tout à fait circonstanciée. Le Tianjin Tianwenlu, dont j'ignore où se trouve le manuscrit original, s'il existe encore, a été imprimé pour la première fois en 1911 dans une série qui est une sorte de ce qu'on appelle un tsongshu, c'est-à-dire une collection de textes que j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de mentionner, qui est intitulée le Tongshu, ce qui signifie plus ou moins l'histoire douloureuse. Pardon. C'est une série donc qui contient une vingtaine de textes datant tous de la transition Ming-Qing, des textes jusque-là inédits qui avaient été censurés ou cachés sous la dynastie des Qing en raison de la tonalité résolument anti-manchou qu'on pouvait y trouver ça et là. Comme on le sait, à mesure que le XIXe siècle avançait et que la situation de la dynastie devenait plus difficile, de la dynastie des Qing donc, les Qing avaient été bien obligés de mettre un peu d'eau dans leur vin en matière de défense de l'honneur manchou. D'autant que leurs soutiens les plus efficaces pendant ces temps de crise, et surtout au moment de la rébellion des Taiping, étaient des Chinois. Et c'est grâce à ce relâchement relatif de la censure qu'un certain nombre d'auteurs de la transition qui sentaient le soufre, parce que c'était des loyalistes Ming plus ou moins avoués, avaient refait surface. Certains avaient même acquis une très grande notoriété, une très grande popularité dans certains milieux de lettrés fonctionnaires, dont, par ailleurs, la loyauté envers les Qing n'était absolument pas en cause. Je pense en particulier, je le cite au passage, parce que c'est le plus connu, à quelqu'un comme Gu Yanwu, qui est donc né en 1613 et mort en 1682, mais dont tous les textes conservés datent d'après la conquête, ce sont des textes des Qing. Gu Yanwu, c'est quand même important de le souligner, n'a jamais rien publié ou fait ouvertement circuler qui soit ouvertement anti-Mandchou ou qui mette explicitement en cause la légitimité des Qing. Alors que dans les textes recueillis dans le Tongshi, les Mandchous ne sont que des barbares qui menacent la Chine et qu'il faut donc repousser et détruire à tout prix. Et après 1645, lorsqu'il est trop tard pour les repousser, ce sont des occupants illégitimes assistés par des traîtres. 1911, qui est donc, comme je le disais, la date de la première édition du Tongshi, c'était encore la dynastie des Qing. Plus que pour quelques mois, certes, mais personne ne pouvait le savoir. Et même un éditeur aussi protégé et ayant autant pignon sur rue que la célèbre Commercial Press, donc la Shangwin Shuguan, qui opérait à l'abri des concessions de Shanghai, même un éditeur comme celui-ci, qui a publié le Tongshi, était obligé de prendre quelques précautions s'il voulait que ses livres sortent des dites concessions. Et c'est pourquoi, dans les textes imprimés dans le Tongshi, les caractères considérés comme injurieux pour les Mandchous, comme par exemple, il y en a toute une ribambelle, comme par exemple nous, les esclaves, ou un autre terme qui est d'une certaine manière, encore plus injurieux d'une certaine manière, c'est loup, qui est un vieux terme qui signifie un prisonnier de guerre, donc qui va être réduit en esclavage, de toute façon peut-être castré, enfin il va arriver des tas de choses. Donc quand on parlait des Mandchous, de l'ennemi d'au-delà de la Grande Muraille, on disait les loups, ou les nous, les esclaves, c'est une façon peut-être de se rassurer en les traitant comme ça. Mais c'est une vieille tradition en chinois par rapport aux peuplades du Nord. Donc, ces termes, ces caractères considérés comme injurieux sont remplacés dans cette édition par des petits carrés. Et ce genre d'autocensure n'aurait bien sûr plus eu d'objet, ou n'aura plus d'objet après 1912, l'an premier de la République. Dans cette édition, qui est à ma connaissance la seule, mais qui a été reproduite plusieurs fois par la suite, et dans tous les catalogues des bibliothèques et dans toutes les bibliographies, le Ti Zhen Ti Wen Lu est attribué un certain Ye Xiaoyuan. Ye Xiaoyuan, qui est né en 1589 et mort en 1648, qui était originaire de Wujiang, une riche sous-préfecture située sur le Grand Canal, tout de suite au sud de Suzhou, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la carte. Et au début, toujours dans l'édition du Tongshi, au début, il y a une préface signée de Ye Xiaoyuan. Et pourtant, il a été démontré de façon irréfutable que cette attribution est une impossibilité. En effet, la préface est datée de 1638, alors que le contenu du texte va jusqu'en 1653, comme je l'ai dit, et en outre, Ye Xiaoyuan est mort en 1648, après avoir pris la tonsure et avoir vécu les trois dernières années de sa vie caché dans un monastère pour ne pas avoir à servir les Qing. Et en fait, on s'aperçoit que cette préface n'est pas du tout celle du Ti Zhen Ti Wen Lu, mais que c'est celle de l'autobiographie de Ye Xiaoyuan, laquelle s'achève en effet en 1638, avec une seconde partie qui va jusqu'en 1645. Et cette autobiographie contient des détails, en outre, qui montrent que son auteur n'a pas pu rédiger le Ti Zhen Ti Wen Lu, même partiellement, enfin même, disons, jusqu'à sa mort. Cela étant, on ignore pourquoi et par qui la préface de Ye Xiaoyuan a été raccrochée à un texte qui n'a rien à voir avec elle, ni pourquoi ce texte lui a été attribué dans la seule édition qui en existe. Soit dit en passant, même s'il n'est pas l'auteur du Zijinti Wenlu, Ye Shaoyuan est un personnage très intéressant et tout à fait typique d'un certain milieu de lettrés non conformistes de la fin des Ming, dont beaucoup étaient d'ailleurs, comme lui, originaires de la préfecture de Suzhou. On sait par exemple qu'il avait une épouse et toute une ribambelle de filles qui étaient toutes des poétesses de grand talent auxquelles il était profondément attaché et dont il s'est appliqué, après leur mort, parce que beaucoup sont mortes jeunes, à publier les travaux. Il y a également chez Ye Shaoyuan un parallèle intéressant avec Xu Zhetiao, en ce sens que Ye Shaoyuan a lui aussi passé 2 ans dans les bureaux du ministère des Travaux publics à Pékin, mais un peu plus tard. En effet, il se trouvait là au moment de la panique causée par les Mandchous au tournant de 1629 et 1630, lorsqu'ils avaient donc réussi à pénétrer en Chine propre et à s'approcher dangereusement de la capitale. En tout cas, comme Xu Zhetiao, Ye Shaoyuan s'était signalé dans son poste au ministère des Travaux publics par une intransigeance en matière de comptabilité et de respect du règlement qui n'avait pas été sans créer beaucoup de frictions avec ses collègues. Mais Ye Shaoyuan était apparemment beaucoup moins soucieux que Xu Zhetiao de poursuivre une carrière, de servir l'État. Et il a assez rapidement trouvé un prétexte pour rentrer chez lui, en quoi il est d'ailleurs assez typique, là encore, des lettrés de Suzhou qui affectaient volontiers de ne pas courir après les honneurs. L'autobiographie de Ye Shaoyuan est beaucoup moins longue que celle de Xu Zhetiao. Elle est aussi plus ramassée et plus intimiste, je dirais, plus tournée vers sa famille et vers tous les malheurs qui l'ont frappé. Et il y est assez peu question de politique. Bien que Ye Shaoyuan ait résidé à Suzhou, c'est-à-dire en fait à Wujiang, pendant les mêmes années, le texte ne s'étend pas beaucoup sur les événements dramatiques qui forment justement la substance du Zijinti Wenlu, ou disons qu'il en parle différemment, beaucoup moins longuement déjà, différemment, avec plus de recul et, oserais-je dire, sur un ton moins journalistique, si ce terme avait un sens parlant d'un texte des Ming. Il ne peut pas ne pas évoquer, bien sûr, les grandes famines des années 1640, puisqu'il en a lui-même fait l'expérience, mais il en parle plutôt de son point de vue de lettré, retiré dans sa campagne, et s'efforçant de suivre le modèle des militants des associations charitables auxquelles j'ai fait allusion, avec lesquelles il avait des affinités évidentes. Mais encore une fois, je reviendrai sur ces associations charitables, et de plus, je reviendrai certainement sur l'autobiographie de Ye Shaoyuan. Quoi qu'il en soit, l'auteur réel du Zijinti Wenlu, pour y revenir, ce n'est pas Ye Shaoyuan et on ne sait pas qui c'est. La seule chose qui soit certaine, c'est que c'était un résident de la ville de Suzhou et tout suggère qu'il appartenait à la couche supérieure de la classe lettrée, je veux dire la couche la plus riche et celle qui avait le plus à craindre des conflits sociaux, parfois extrêmement violents, qui ont ponctué l'histoire de la transition Ming-Qing au Jiangnan et aussi de celle qui avait le plus à perdre dans ces conflits. Et dans le cas où il n'en faisait pas lui-même partie de cette classe supérieure, la plus riche, l'auteur de cette super élite, donc du rang et de la noblesse et de la richesse, l'auteur du Zijinti Wenlu en épousait visiblement les intérêts, comme en témoigne par exemple le fait qu'il adopte systématiquement le point de vue des grands propriétaires fonciers menacés par l'agitation de leurs tenanciers et de leurs dépendants, laquelle agitation ne peut être pour lui qu'un grave scandale et une atteinte inacceptable à l'ordre naturel des choses. Le texte du Zijinti Wenlu procède par juxtaposition d'entrées ou de paragraphes, arrangés bien sûr par ordre chronologique, parfois jour après jour, et dans la plupart des cas consacrés à un sujet ou à une anecdote particulière. Le contenu est extrêmement varié. Déjà, on y trouve une quantité de faits divers, voire de simples potins concernant la vie à Suzhou et dans la région, autrement dit les incidents de la vie quotidienne, les affaires de crime ou d'adultère qui nourrissent la chronique, les incendies, il en est mentionné une quantité, et certains détruisent des quartiers entiers, et beaucoup de choses encore, et rien que cela rend la lecture du Zijinti Wenlu, je dois dire, assez distrayante, du moins tant qu'il n'est pas question des horreurs de la famine ou de la guerre. Et en fait, je voudrais consacrer ce qui me reste de temps aujourd'hui à consacré à Sujo, c'est-à-dire à tout ce qu'on perçoit de la ville et de son environnement dans ce texte, dans le Qi Zhen Ti Wen Lu, car cela nous aidera à contextualiser, comme on dit, les événements des années 1640, que j'aborderai donc la prochaine fois, dans 15 jours. Suzhou était une grande ville, une capitale culturelle et commerciale, où résidaient beaucoup de ces grandes familles mandarinales, c'est Wangtia, les familles en vue, ou Daru, les grandes familles. Et les grandes familles de Suzhou étaient incontestablement le nec plus ultra de la haute élite lettrée en Chine, en fait. Mais il n'y avait pas qu'elle, bien sûr. Déjà, il y avait, en plus de cela, une population très nombreuse et prompte à s'agiter de lettrés d'un rang nettement plus subalterne, et je veux bien sûr parler là de ces fameux étudiants confucéens, Sheng Yuan, et il y a toute une série de termes, que j'ai évoqués assez longuement l'année dernière. Mais il n'y avait pas que des lettrés à Suzhou. Il y avait aussi beaucoup de gens non titrés, mais très riches, des entrepreneurs, des magnats de la finance ou du négoce. Et à ce sujet, d'ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler que le négoce et la finance étaient des activités auxquelles participaient aussi bien les membres les plus fortunés de l'élite lettrée, plus ou moins discrètement, mais évidemment, eux avaient en plus la classe et le bon goût. Autrement dit, ils avaient ce qu'on est convenu d'appeler la distinction. Et c'est un thème qui a été étudié récemment de façon très intéressante, justement la course-poursuite entre les nouveaux riches et puis les gens vraiment distingués. Et puis, il y avait toute une population de commerçants, grands et petits, d'artisans et même d'ouvriers. Et là, je fais bien sûr appel au célèbre soyeux de Suzhou, célèbre en tout cas pour les historiens, qu'on appelait les Qihu, ce qui signifie les familles ou les foyers, littéralement, qui possèdent, ou plutôt qui travaillent sur un métier à tisser. Enfin, le mot qi peut désigner n'importe quel mécanisme ou machine, mais en l'occurrence, c'est un métier à tisser. Les Qihu travaillaient contre salaire pour des courtiers ou pour des commanditaires, y compris d'ailleurs pour l'État, et il n'était pas rare que leurs ateliers regroupent une quantité importante de métiers, sans malgré tout qu'on puisse parler de manufacture au sens, sens technique du terme. De la même façon, d'ailleurs, si la condition des Qihu était extrêmement précaire et si l'on peut certainement dire qu'ils étaient durement exploités, il serait néanmoins excessif de parler d'un prolétariat au sens moderne, un prolétariat auquel il faudrait d'ailleurs encore ajouter les ouvriers spécialisés dans la teinture ou dans le polissage des tissus, disons toute l'industrie du textile qui était extrêmement active dans tout le Tianan, mais particulièrement à Suzhou. Mais si les soyeux de Suzhou ne constituaient pas un prolétariat, ils n'en avaient pas moins, sinon une conscience de classe, en tout cas la conscience d'appartenir à une corporation bien définie, partageant le même savoir-faire et le même mode de vie, et surtout avec des intérêts en propre à défendre. Et cela, la défense de leurs intérêts, ils l'ont fait en plusieurs occasions, de façon très organisée et parfois violente, en se mettant en grève et en manifestant. Et certaines révoltes de Qihu ont fait beaucoup de bruit jusque dans les plus hautes sphères de l'État. La plus fameuse, sans doute, remonte à 1601, et elle avait été provoquée par les abus d'un de ses eunuques envoyés dans les provinces par l'empereur Wanli pour prendre le contrôle de la fiscalité sur le commerce et l'artisanat. Donc l'industrie de la soie est évidemment visée au premier chef. Il est difficile, en fait, quand on... je trouve qu'il est difficile, quand on évoque les Qihu de Suzhou, de ne pas penser aux soyeux de la Croix-Rousse au XIXe siècle. Quoi qu'il en soit, il est occasionnellement fait allusion aux Qihu dans le Qi Zhen Ti Wen Lu, et c'est pour cela que j'en ai parlé un peu plus longtemps que c'était nécessaire. Et de fait, de tout cela, de cette métropole régionale, dominée par son aristocratie mandarinale, avec sa petite noblesse de lettres ordinaires, sa bourgeoisie commerçante et ses classes laborieuses et dangereuses, sans parler de la présence nombreuse des représentants de l'État, de tout cela, donc, le Qi Zhen Ti Wen Lu est, autant que je puisse en juger, car je n'ai pas tout lu, un des textes qui livre l'image la plus vivante, la plus diverse et aussi la plus contrastée. Et il la livre, cette image, à travers tous ces faits divers, justement, quand il ne faut pas parler de chiens écrasés, tous ces incidents et tous ces accidents qui font partie de la vie quotidienne dans une grande ville dont tout le monde parle et que tout le monde commente, Il la livre également à travers la description des fêtes, des célébrations et des cérémonies officielles qui ponctuaient l'année et auxquelles toute la ville participait. Enfin, on en a l'impression à lire le texte. Et enfin, il la livre, cette image, à travers l'évocation que je trouve assez frappante de ce qu'on pourrait appeler une psychologie urbaine particulièrement intéressante à observer, évidemment lorsqu'il s'agit d'une aussi grande ville. Une psychologie urbaine qui se manifeste par la propagation quasi instantanée des rumeurs, même les plus absurdes, par des mouvements de panique ou des explosions de violence que rien ne laissait prévoir, et aussi par une passion partagée pour tout ce qui concerne la politique, je ne dis pas le politique, mais bien la politique, que ce soit la politique locale ou la politique nationale, et dans le cas de Suzhou, avec tous les personnages importants qui y résidaient, les deux niveaux étaient toujours plus ou moins en rapport l'un avec l'autre. Et je vais d'ailleurs y revenir dans un instant. Je vais parler d'explosion de violence, mais en fait, la violence et le danger semblent faire partie du quotidien de Suzhou pendant la douzaine d'années, en tout cas, couvertes par le Tijun Tiwenlu avant les années 1640 et les terribles sécheresses dont nous parlerons. Et là, c'est une violence sous-jacente, si on veut, et sans arrêt visible. Et là, en fait, il faut prendre en compte non seulement la ville de Suzhou intramuros, mais aussi les campagnes environnantes, qui sont d'ailleurs fortement urbanisées elles-mêmes, et commercialisées, car les deux vivaient en étroite symbiose. L'agriculture et l'artisanat rural produisaient pour les marchés de la ville. Les grands propriétaires ruraux résidaient en ville, ou au contraire, ils allaient se réfugier dans leurs manoirs ruraux lorsqu'on craignait des violences en ville. Les mauvaises récoltes et les chertés se traduisaient par des violences un peu partout, des attaques contre les résidences des riches, des pillages en tout genre, car même en cas de difficultés conjoncturelles, la fiscalité restait impitoyable. Le gouvernement central, à ce moment-là, était financièrement aux abois et il ne pouvait en aucun cas se passer des revenus du Jiangnan pour approvisionner ses troupes au nord. Et du coup, les propriétaires qui étaient supposés payer les impôts refusaient de diminuer les rentes que devaient leur payer les innombrables tenanciers qui cultivaient leurs terres. Et en bref, la menace de la violence sociale dans les campagnes, les pillages visant les riches propriétaires ruraux, les méfaits de ces gens apparemment assez nombreux, qu'on appelle les jeunes voyous sans feu ni lieu, j'aime bien cette expression de Charles, c'est-à-dire les jeunes. Hein, au fond, ça me vient à l'esprit tout d'un coup. La traduction littérale de Eushao, ce serait salaud de jeunes. Donc, c'était des Wulai. Enfin, pratiquement. Attendez, Wulai, oui, pardon. Voilà. Donc, les Wulai, ils sont des gens, littéralement, qui n'ont rien sur quoi s'appuyer, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de métier bien défini. Et les Eushao, c'est donc les Shaoniennes, hein, les jeunes qui sont méchants. Donc ces personnages semblent extrêmement nombreux dans le paysage de Suzhou à cette époque. Et enfin, les esclaves qui s'attaquent à leur maître, et ça il y a aussi beaucoup de mentions, tout cela semble faire partie de la vie quotidienne. Et cet état de choses pousse en fait un nombre croissant de gens fortunés à venir s'installer en ville, où ils se sentent plus à l'abri. Et puis, il y a aussi la violence d'État. Ainsi, le comportement prédateur, les exactions et toujours les violences des troupes chargées de collecter le tribut en grain sont constamment mentionnées, très souvent, et les conséquences peuvent aller assez loin. En 1637, par exemple, ça c'est aussi une anecdote urbaine, si on veut, en 1637, un officier des troupes du tribut qui s'était attaqué à une riche résidence en ville, dont il soupçonnait les occupants d'avoir pillé un de ses bateaux, qu'ils avaient torturé à mort et avaient tout dévasté, provoque en retour une émeute au cours de laquelle son palanquin officiel est démoli par la foule et lui-même est battu sévèrement et entièrement dépouillé de ses vêtements et livré dans cet appareil au préfet de Suzhou. Et lorsqu'il repart, après avoir reçu du préfet quelques oripeaux pour couvrir sa nudité, plusieurs hommes de son escorte sont massacrés par la foule. C'est une anecdote et l'auteur s'exclame après l'avoir raconté « Incident extraordinaire ». Et ce genre d'expression, il y en a d'autres équivalents, revient sans arrêt dans le texte et lui donne un peu sa tonalité. Enfin, contribue à lui donner sa tonalité. Quelques années avant, en 1629, c'était une mutinerie des garnisons de Wusong et de l'île Chongming. Je ne sais pas si Wusong est sur la carte. L'île Chongming, certainement, c'est la grande île dans l'estuaire du... on n'a pas écrit son nom. Du Yangtze. Si, Chongming. Tout à fait à l'embouchure du Yangtze. Et Wusong était... qui fait partie de Shanghai, je crois, maintenant. Était une garnison très importante, donc en avant de Suzhou, si on veut. Donc, les garnisons de Wusong et de l'île Chongming se mutinent parce qu'elles n'ont pas été payées depuis 10 mois. Et ceci crée la panique à Suzhou, car les mutins, en fait, se dirigent vers la ville. On ferme donc toutes les portes. Le grand coordonnateur, donc le Xunfu, sanctionne les fonctionnaires et les commis qui sont accusés d'avoir retenu les soldes. Et il faut envoyer le juge préfectoral en personne, hors les murs, pour aller calmer les troupes et leur distribuer l'argent. Et une fois qu'ils ont reçu l'argent, enfin, dont ils considéraient qu'il leur était dû, les militaires repartent et on rouvre les portes. Et de fait, la fermeture des portes qui commandaient l'accès donc, le long de la muraille, qui était extrêmement... enfin, c'était une très, très, très importante muraille à Suzhou, donc la fermeture des portes qui commandent l'accès à la ville, chaque fois qu'il y a un danger, ou même une rumeur, et leur réouverture une fois le danger passé ou la rumeur infirmée, ce sont des choses qui sont très souvent mentionnées pendant ces années périlleuses. De même d'ailleurs que la fuite en masse des habitants de la ville qui vont se réfugier à la campagne, ou au contraire des ruraux qui viennent se réfugier en ville, et ces mouvements, je dirais presque que ces mouvements alternés, semblent rythmer la vie de Suzhou, et d'ailleurs j'en donnerai à cette époque, et d'ailleurs j'en donnerai d'autres exemples. Et pendant ce temps, notamment pendant la conquête mandchoue. Et pendant ce temps, la politique continue. Je mentionnais tout à l'heure à quel point la politique fait partie de la vie et de la mentalité de Suzhou. Et déjà, il y a ce qu'on peut appeler la vie politique locale, qui est constamment en évidence dans les pages du Zijun Tiwenlu. De quoi s'agit-il exactement quand je parle de politique locale ? Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord tout ce qui concerne la personnalité, le style, si on veut, le caractère, et on peut même dire le pedigree des fonctionnaires en poste dans la ville. Et il y avait beaucoup de fonctionnaires. Il y avait 2 magistrats qui avaient leur bureau à Suzhou, ceux des sous-préfectures de, comme quelques-unes des grandes métropoles en Chine, Suzhou, la préfecture de Suzhou, la ville de Suzhou avait été partagée entre 2 sous-préfectures, siennes, qui avaient leur siège à l'intérieur des murs de la préfecture. Donc, alors là, je ne sais pas laquelle, je sais plus laquelle était à l'est et à l'ouest, mais enfin, les deux s'appelaient d'une part... Wuxian. Non, Wu, c'est le nom, le vieux nom de toute la région, du Tiangnan. Et l'autre s'appelait Changzhou. Donc, Wu et Changzhou. Et les magistrats de ces deux, suivant qu'une affaire, un incident, un crime ou quelque chose se passait dans telle ou telle juridiction, c'était l'un ou l'autre à l'intérieur des murs qui intervenaient. Donc, ces deux magistrats apparaissent très, très souvent dans le texte. Donc, il y avait les 2 magistrats de Wuxian et Changzhou, il y avait le préfet de Suzhou, et il y avait également, toujours dans la ville, plusieurs fonctionnaires de rang provincial, à commencer par le grand coordonnateur, c'est-à-dire l'espèce de super gouverneur qui avait pour titre Yingtian Xunfu. Yingtian étant en fait un mot, le nom sous les Ming, le nom littéralement répondre au ciel, le nom officiel de la capitale secondaire des Ming, c'est-à-dire Nankin. Mais en fait, le Yingtian Xunfu semble avoir été très présent, en tout cas d'après ce texte, constamment présent à Suzhou. Donc il y avait lui aussi, ainsi que divers responsables militaires, sans parler d'une quantité de postes subalternes. Donc tout ça, on s'intéressait beaucoup à ces gens, comment ils se comportaient, qui ils étaient, quelles relations ils avaient, etc. Mais au-delà de la personnalité des fonctionnaires, donc qui intéressait malgré tout, surtout leur père, c'est-à-dire les membres de l'élite lettrée, au-delà de ça, il y avait leur popularité ou, au contraire, l'hostilité qu'ils suscitaient parmi les habitants de la ville par leur attitude et par leurs actions. Et puis, Il y avait toutes leurs aventures et leurs mésaventures, lesquelles relèvent, disons, de l'anecdote quotidienne, là encore. Le texte cite, par exemple, plusieurs cas de manifestations violentes organisées contre des magistrats qui poussaient la corruption un peu trop loin. Il parle aussi des initiatives que prennent ou ne prennent pas les préfets et les magistrats, de leur comportement public, des négociations avec les personnages les plus influents de la société locale, dont certains étaient des hauts fonctionnaires en retraite qui dominaient les fonctionnaires locaux par le rang et par la surface sociale, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est la politique locale. Mais le Ci Zhen Ci Wenlu n'est pas seulement une chronique de la politique locale, si excitante soit-elle, et l'horizon de son auteur ne se limite évidemment pas à l'intérieur des murs de Suzhou, même si c'est dans la ville intramuros que se trouve le cœur de l'action. Et il ne se limite pas non plus au territoire de la préfecture qui portait ce nom, la préfecture de Suzhou, ni même à l'univers du Jiangnan, tant il est vrai que le Jiangnan est un univers en soi, géographiquement, économiquement et surtout culturellement. L'auteur du Ci Zhen Ci Wenlu parle régulièrement en fait de la politique au niveau national, celle qui se faisait à Pékin, à laquelle, encore une fois, une société comme celle de Suzhou, avec tous les anciens et futurs fonctionnaires qui la peuplaient, était étroitement associée. Et ce, d'autant plus que la politique nationale faisait parfois irruption à Suzhou de façon violente. On rencontre plusieurs exemples de cette irruption violente de la grande politique, si je puis dire, dans le Ci Zhen Ci Wenlu. Et l'un des plus spectaculaires parmi eux, dont il est assez longuement question dans le premier chapitre de l'ouvrage, nous est offert par les conflits, les règlements de compte et aussi les manifestations populaires provoquées à Suzhou par la brève dictature de l'eunuque Wei Zhongxian et ensuite par sa chute après la mort de l'empereur Tianxi, toute chose que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ces dernières semaines à propos des ennuis de Xu Zhetiao, qui était une de ses victimes. Wei Zhongxian avait été à l'origine de purges sanglantes contre ses adversaires politiques à Suzhou, c'est-à-dire contre les sympathisants du parti Donglin, qui étaient particulièrement nombreux dans la région. Et aussi bien les manifestations de lettrés que les émeutes populaires qui avaient éclaté dans la ville pour s'opposer aux arrestations avaient fait énormément de bruit, et là encore jusqu'au sommet de l'État. Par ailleurs, on sait que Wei Zhongxian en était arrivé à un tel degré de mégalomanie pendant ces deux dernières années de sa dictature en particulier, qu'il avait entrepris de faire édifier des sanctuaires en son honneur, c'est-à-dire ce qu'on appelait des shangzi, sanctuaire non pas vivant, mais en l'honneur d'une personne vivante, un peu partout dans l'Empire. Et d'ailleurs, le texte du Ci Zhen Ci Wenlu en donne un endroit, toute la liste, et il en dénombre, sans doute basé sur un édit impérial, et il en dénombre pas moins de 39. À Suzhou, c'est étalé jusqu'à l'édification d'un temple majestueux qui était donc dédié à Wei Zhongxian sur le site prestigieux de la colline du Tigre, Ruqiao, situé hors les murs au nord-ouest de la ville, qui était un haut lieu de la vie religieuse, de la vie sociale et de la vie touristique aussi à Suzhou. Et ce temple, qui avait été nommé le Puruizi, c'est-à-dire le sanctuaire de la bienfaisance universelle, contenait une grande statue de Wei Zhongxian, entouré de quatre acolytes, tous des eunuques bien sûr, tel un Bouddha et ses bodhisattvas. Et de façon assez remarquable, au moment où l'édifice avait été achevé, l'empereur Tianxi était mort depuis un mois. Tous les anciens fonctionnaires résidant à Suzhou qui avaient été chassés de l'administration et dépouillés de leurs titres lorsque Wei Zhongxian était au pouvoir, donc la mésaventure qui était arrivée à Xu Zhetiao en 1625, tous ces gens avaient été déjà réhabilités par l'édit d'accession au trône du nouvel empereur, et on savait que les choses étaient en train de changer très vite et très radicalement. Et pourtant, les autorités de la préfecture et des sous-préfectures, donc des deux sous-préfectures de Suzhou, se rendent encore constituées au sanctuaire qui vient d'être terminé pour y présenter leur respect à la statue du dictateur en instance d'être déchu. Et comme le commente l'auteur du Ci Zhen Ci Wenlu, je cite, « Voilà bien une étrange démarche comme on n'en a pas vu depuis l'Antiquité. À ce moment, il y avait un nouveau souverain à la cour et ce traître d'eunuque n'était plus protégé. » Et il ajoute, une phrase un peu bizarre d'ailleurs, « Le spectacle à l'intérieur du sanctuaire était quelque peu différent de ce qu'il était auparavant. » Par quoi le spectacle, il emploie le mot « tings », qui signifie normalement le panorama, ce qu'on voit. Mais je crois que, en fait, ce dont il veut pas, enfin, je, soupçonne que ce dont il veut parler, c'est plutôt l'ambiance qui régnait dans ce sanctuaire, alors qu'on ne savait plus très bien que les fonctionnaires qui venaient y sacrifier à Wei Zhongxian ne savaient plus très bien sur quel pied danser. Quoi qu'il en soit, 2 mois plus tard, on prend connaissance à Suzhou de Lady Impériale qui destitue définitivement Wei Zhongxian, lequel avait été mis en quelque sorte en congé sans solde, si on veut, enfin en attente, qui ordonne également la démolition de tous les sanctuaires qui lui avaient été dédiés. Et cet édit, on en a pris connaissance par la Gazette de Pékin, est-il précisé au passage, 12 jours après sa promulgation. Et ce genre de détail doit toujours être noté, parce que ça donne une sorte de consistance chronologique aux événements. Et le temple et les statues, tout juste achevés, sont donc dûment et solennellement incendiés et démolis par le même préfet. L'auteur du Tijun, Ti Wenlu, parle donc en longueur de tout cela, de l'ascension et de la chute de Wei Zhongxian et de ses répercussions à Suzhou. Mais si Suzhou a été directement concerné par l'ascension et la chute de Wei Zhongxian, c'est-à-dire un phénomène politique dont la signification, l'importance et les conséquences concernaient le pays tout entier, d'autres événements, tout aussi graves, mais de nature différente, ne représentaient encore qu'une menace relativement lointaine, vue depuis Suzhou. Il en est pourtant question dans le Tijun Ji Wenlu, même s'il s'agit, d'une chronique essentiellement et même totalement locale. C'est que ces événements ont eux aussi un impact indirect sans doute, et parfois simplement psychologique, mais qui méritait apparemment d'être relevé dans une chronique comme ça. Par exemple, le raid des forces mandchoues en direction de Pékin à la fin du 1929, dont j'ai déjà parlé, est commenté dans le texte, d'abord parce qu'il s'agissait d'une alerte véritablement nationale, c'était après tout la capitale de l'Empire qui était menacée, et ensuite parce que la nécessité de renforcer les défenses de Pékin s'est traduite par une pression fiscale aggravée, le tribut en grains toujours, qu'il a fallu livrer d'urgence avant les délais normaux, au tout début de 1630, si bien que, et comme les bateaux du tribut n'étaient pas prêts, il a fallu réquisitionner une armada de bateaux de commerce, de navires de commerce, et même d'embarcations de plaisance, pour transporter le grain vers Pékin par le Grand Canal. Et nous savons aussi, mais ça c'est par une autre source, que comme le Fujian et comme d'autres provinces d'ailleurs, le Jiangsu avait dû expédier un contingent de 3000 hommes pris sur ses troupes locales pour renforcer la défense de la capitale. Et nous avions vu que pour Xu Zhetiao, envoyer ainsi des troupes du sud à Pékin était une absurdité. Mais enfin, il a fallu donc organiser et financer cette opération. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, l'Empire finissant des Ming était confronté à deux menaces mortelles. Les Mandchous à la frontière et les rébellions dites paysannes dans l'intérieur. Pour les habitants de Suzhou, les Mandchous restaient encore quelque chose de très lointain. Et ils le sont en fait restés jusqu'en 1644, je dirais jusqu'au dernier moment. Pour les rébellions populaires, en revanche, c'était un peu différent. Ou disons que c'est devenu plus vite quelque chose de différent. Il y a dans le Tijun Ti Wenlu à l'année 1635 une simple ligne que je trouve assez frappante. Voilà en effet ce qu'elle dit. Les bandits maraudeurs, c'est-à-dire les Liuko, hein, je crois que j'avais déjà indiqué ce terme, ou les bandits errants, ou Liuko. Les Liuko, les bandits maraudeurs, donc c'est comme ça que j'essaie de traduire le terme, sévissent, ils saccagent les préfectures et les sous-préfectures, et ça s'approche progressivement du Jiangnan. Ils ont incendié et démoli les tombes impériales de Fengyang. Le grand coordinateur Zhang Guowei a dû partir à la rescousse à la tête des officiers et des troupes. Donc les choses se rapprochent. Le chef rebelle qui avait pénétré au Anhui, qui faisait partie du Jiangnan, et ça, vous le voyez sans doute bien sur la carte. Je n'ai pas laissé de carte. Attendez, où est-ce qu'il y a cette carte? Ah ben, je l'ai perdue. Ah si, voilà. Oui, il n'y a pas le mot Anhui. Mais vous pouvez voir Fengyang, tout à fait en haut de la carte. Oui, le chef rebelle qui avait donc pénétré au Anhui, qui faisait partie du Jiangnan, et qui était allé jusqu'à aller désécrer les tombes impériales de Fengyang, et Fengyang était la préfecture natale du fondateur de la dynastie des Ming, c'était Zhang Xianzhong, l'un des deux grands leaders, ou l'un des deux grands chefs, personnage très important, enfin très, très connu, des rébellions populaires de la fin des Ming. Donc, l'autre étant Li Zicheng, celui qui, comme j'ai dû le rappeler, s'est finalement empéré de Pékin en 1644. Donc c'était Zhang Xianzhong, mais ce que je voulais signaler, donc c'est à ça que fait allusion cette simple ligne dans le Tijun Tiwenlu, mais ce que je voulais souligner, c'est ce sentiment que le Tiangnan n'est plus à l'abri de périls qui jusqu'alors semblaient concerner uniquement la Chine du Nord, le nord du fleuve. Nous verrons la même chose en fait à propos des famines des années 1640 et de leurs conséquences. On croyait que ça n'arrivait jamais. Et maintenant, on le voit. Et ce genre de notation, encore une fois, qui reflète la perception des choses qu'avaient les habitants d'un endroit comme Suzhou, c'est dans des sources comme le Zijun Tiwenlu ou certaines autobiographies qu'on a des chances de les trouver. Et puis, au-delà de ces événements lointains ou qui se rapprochent, il y a tous les événements dont la dimension et la gravité dépassaient de très loin le cadre de Suzhou et de sa préfecture, mais qui les ont en quelque sorte engloutis. Et là, il y a évidemment la conquête mandchoue, l'événement avec un grand E, et puis il y a donc les famines des années 1640 qui l'ont immédiatement précédé et dont je commencerai à parler la prochaine fois. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.